Une autre planète, figure de l'Antiquité latine chez Fellini et dans Fellini Satyricon, avec Olivier Curchaud.
Bien, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Curchaud, qui est un spécialiste à la fois de l'Antiquité, il enseigne les lettres classiques en classe préparatoire, et un spécialiste de cinéma, il est historien du cinéma. Donc avec lui, nous allons ouvrir un troisième dossier, après le dossier Rome, après le dossier de la place des femmes dans le péplum, celui de Fellini et, comment dire, de la latinité peut-être.
Non, du fellinisme.
Et du fellinisme, ce qui est une autre version encore plus précise et plus large à la fois des rapports de Fellini avec l'Antiquité. Voilà, merci et je vous laisse volontiers la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je note le début de mon intervention. Je vais tenter de la contenir puisqu'il y aura 12 minutes et 25 secondes environ de projection. Donc, ça laisse environ 17 minutes et quelques secondes pour mes petits bavardages. Donc, la place sera surtout laissée à Fellini. Bonjour à tous. Je vais commencer par une séquence nostalgie puisque Christophe Gautier m'a fait l'amitié de se rappeler qu'il y a 30 ans, exactement 30 ans actuellement, j'étais un jeune étudiant de lettres classiques à la Sorbonne, Paris 4, le Paris 4 en marbre, et j'étais en train de préparer une maîtrise sur le Fellini Satyricon qui s'intitulait « La représentation de l'Antiquité latine dans le Fellini Satyricon ». Il y a de ça 30 ans exactement, ça m'a conduit à Rome pendant mon travail où j'ai eu le bonheur de rencontrer le scénariste du film, Bernardino Zapponi, ainsi qu'un très très grand professeur de latin décédé aujourd'hui qui était le grand spécialiste de Virgile et de Pétrone bien sûr, Hector et Parator que j'ai interviewé à cette occasion-là puisque Fellini lui avait rendu visite. À la suite de quoi j'ai passé un concours important dans la suite de mes études l'année suivante et après j'ai pu bénéficier d'une invitation de Federico Fellini lui-même sur le plateau de Elena Viva. Je souhaite à tous les étudiants de master d'avoir l'occasion d'être invités sur le plateau d'un plateau de Fellini. C'est plus possible aujourd'hui hélas, mais j'ai ainsi pu voir Fellini au travail pendant 2 jours, j'aurais presque tendance à dire grâce à ma maîtrise et à l'amitié de Bernardino Zapponi. Voilà. Ensuite, très vite, j'ai trompé Fellini. Je l'ai suivi pendant quelques années, je dirais jusqu'à sa mort en 1993. Et puis ensuite, je l'ai trompé avec Jean Renoir. Mais comme Jean Renoir n'a rien fait sur le péplum, que l'Antiquité latine ou grecque, ça ne l'intéressait pas, eh bien, Christophe ne m'a pas demandé de venir parler de Renoir, mais de venir parler de ma jeunesse. Or, comme c'est un film qui travaille sur la « nostalgie », entre guillemets, curieuse nostalgie, mais nostalgie tout de même, ce sera la ligne directrice de mon intervention. Il me plaît de revenir au beau temps de ma jeunesse. Alors, le Satyricon, de quoi s'agit-il? Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de le revoir avant-hier lorsque je l'ai présenté à la salle de l'ABC. C'est le 12e film de Fellini sur un corpus de 23 films. C'est un film qu'il a réalisé, tourné, préparé, tourné et sorti en 68-69, l'hiver 68-69. Le film est sorti à l'automne 69 en France, bénéficiant de dossiers considérables dans la presse. Par exemple, une interview, une conversation entre Georges Simenon, qui était un grand ami de Fellini, et Fellini lui-même en la une de l'Express. Un détail parmi tant d'autres pour que vous preniez la mesure de qui était Fellini. Je ne suis pas sûr qu'on sache encore toujours très bien aujourd'hui qui il est, 15 ans après, 18 ans après sa disparition. Dans Astérix et les Helvètes, publié peu de temps après par Goscinny et Uderzo, le maître d'œuvre des orgies romaines que le préfet de Condat organise s'appelle Fellinus. Et c'est un très joli clin d'œil, évidemment. Les planches que je n'ai pas apportées rappellent certaines images du Satyricon. Voilà, comment je suis tombé dans la marmite Fellini, ça consiste à vous raconter mon enfance, ce qui n'est pas le lieu. Je n'ai pas vu le film à sa sortie, là tout de même je suis un vieux monsieur, mais pas à ce point-là. Je l'ai vu quand j'avais 13-14 ans, je garde le souvenir d'un choc absolu. Je l'ai ensuite revu plusieurs fois avant d'en arriver à travailler sur ma maîtrise. Il faut aussi se rendre compte de ce que c'était que la Sorbonne en 1979, 80, 81. C'était un temple de la pensée, parfois un peu figé. J'ai eu la chance de rencontrer sur ma route de latiniste que tous mes collègues universitaires, bien sûr, ont bien connu, au moins en les lisant, d'une part, bien sûr, Florence Dupont, et d'autre part, mon maître absolu, Alain Michel, qui fut le directeur de ma maîtrise et à qui je souhaitais rendre hommage ici, car en 1980, proposé, fût-ce à un jeune normalien, accepter qu'on fasse un film, on fasse une maîtrise sur le Satyricon, ça vous apparaît comme les grottes de Lascaux, mais ce n'était pas si évident que cela. Donc Alain Michel, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, je crois qu'il est encore de ce monde, s'il m'entend quelque part, je lui adresse un salut extrêmement amical. La problématique de base, c'était la suivante. En 69, lorsque le film est sorti, tout le monde a dit « Ah oui, c'est la Dolce Vita chez les Romains ». Donc Petrone est tout de suite apparu comme une sorte de prétexte. Il faut bien dire que la plupart des critiques de cinéma n'avaient pas forcément lu Petrone. Ça dépend encore lesquels, je suis méchant pour certains d'entre eux. Fellini lui-même en a rajouté une couche. Fellini était un grand menteur, comme il le disait lui-même. Donc on a très vite occulté la question de l'Antiquité latine et du roman de Petrone pour écrire à longueur d'articles sur les métaphores, sur les félinismes, les grosses femmes, les orgies, les nymphomanes, etc., etc. Et donc, mon idée de départ, c'était, mais moi qui ai lu le Satyricon, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre le roman et le film qui est censé en être la libre adaptation ? Donc, le principe, c'était de faire fonctionner, je cite les termes, d'un des trois grands écrivains des années 70 qui ont écrit sur Fellini et le Satyricon, en l'occurrence Catherine Clément, qui se faisait appeler à l'époque Catherine Baquès-Clément, j'ai choisi d'utiliser une érudition, ce que j'appelais l'érudition déplacée, c'est-à-dire le point de vue du latiniste sur un film qui manifestement ne convoquait pas des compétences de latiniste. J'ai cité Catherine Clément, je rends aussi hommage à Moravia, c'est pas n'importe qui, et à Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel depuis, qui eux aussi, Moravia et Le Clézio, s'étaient intéressés à la représentation de l'Antiquité et qui avaient perçu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre Fellini et l'Antiquité latine, la Rome fondatrice. Donc cette érudition déplacée, je vais résumer très rapidement des choses que j'ai écrites il y a maintenant et publiées il y a une petite trentaine d'années, notamment dans la revue Positif à laquelle je collabore de temps en temps. D'une part, dire un mot sur l'adaptation, sans entrer dans le détail, mais je vais pointer quelques notions sur comment Fellini a adapté, Fellini et Zapponi, hein, bien sûr, il faut mettre les deux ensemble, ont adapté le roman de Petrone. Deuxièmement, ça m'amènera à voir quelle représentation de l'Antiquité Fellini peut-être n'a pas trouvé, mais au moins a cherché, et quels sont les moyens cinématographiques d'une richesse absolument confondante et d'une inventivité absolument confondante qu'il a mise au service. Alors avec tous ses collaborateurs de décoration et musique en particulier, on parlera de Nino Rota. Et ça, c'est tout de même l'apport par rapport... à ce que Christophe me demandait, je lui disais, mais tu sais, je vais répéter ce que j'ai dit il y a 30 ans. J'ai tout de même un petit peu travaillé sur Fellini jusqu'à ce que je le trompe avec Renoir, donc jusqu'aux années 90-95. Entre-temps, j'ai découvert un film quasiment inconnu de Fellini. C'est pas moi qui l'ai déterré des archives, mais je savais qu'il existait, qui s'appelle Bloc-notes d'un cinéaste, qui est aujourd'hui disponible en DVD. Vous aurez le plaisir d'en voir 2 minutes tout à l'heure. Et Bloc-notes d'un cinéaste que je vous représenterai dans un instant est un vrai faux documentaire tourné au moment où Fellini est en train de préparer le Satyricon, et comme une sorte de carnet de tournage, de carnet de brouillon, de carnet de préparation. Et donc c'est un document très intéressant et qui par ailleurs, en 1987, Fellini, son avant-dernier film s'appelle Intervista. Et Bloc-notes d'un cinéaste, 1968, est une sorte de débauche, de brouillon, de Intervista sur lequel il se trouve que j'avais écrit dans Positif en 1987. Donc, après, en travaillant sur ce second film, je me suis rendu compte à quel point il formait un ensemble avec le Satyricon. Et puis, comme il y avait Fellini et Roma derrière, à ce moment-là, on se retrouve avec une trilogie. Bloc-notes d'un cinéaste, dont vous verrez un extrait. Fellini Satyricon, dont vous allez voir 2 extraits. Et puis Fellini Roma, dont vous verrez un extrait qui sera la toute fin de mon intervention. Fellini Roma, qui était sur cet écran hier soir, restauré par le soin de nos amis italiens. Voilà, 5 minutes pour mon introduction, c'est ce que j'avais noté. Je passe à ma première partie, à savoir la question de l'adaptation de Fellini. Si tant est que ce qualificatif ait un sens, pour moi, c'est le modèle des adaptations, c'est-à-dire la rencontre entre un très grand texte littéraire et un très grand artiste. cinématographique en l'occurrence, on pourrait parler des hommes de théâtre, j'enseigne ça aussi. C'est-à-dire pas du tout une adaptation ligne à ligne comme il s'en fait tant aujourd'hui à la télévision ou au cinéma, avec une espèce de scrupule, tatillon, etc. Mais la rencontre entre deux imaginaires, mais, et c'était cela que j'avais d'abord voulu faire, Petron lui-même a été surexploité par Fellini, et c'est un compliment que je veux dire par là. Fellini et Zapponi connaissaient le Satyricon de Petron depuis leur jeunesse. C'était un roman qui avait une odeur de soufre, hein, comme beaucoup de ces romans qu'on lisait sous le manteau. Vous doutez bien que dans l'Italie du Duce, dans les écoles du Duce, on n'enseignait pas le Satyricon, on avait plutôt tendance à enseigner quelques discours de Cicéron. L'un et l'autre m'ont confirmé qu'ils connaissaient bien sûr ce livre pour l'avoir lu, donc ce n'était pas une découverte en 1968. Je le dis d'un mot, la quasi-totalité du roman, je l'ai apporté dans une des nombreuses éditions qui existent, ça c'est la vieille édition avec la traduction de Grimal en folio. Je ne l'ai pas apporté la mienne parce qu'en fait j'ai oublié mon édition à la maison, c'est dommage parce que tout était souligné dedans. Enfin, je n'aurais pas fait circuler pour autant le livre. La quasi-totalité du roman est passée dans le film. Et il faut avoir lu le roman pour s'en rendre compte. Je veux dire que tous les grands personnages principaux, je les cite de mémoire, Encolpe, Achille, Giton, le trio de jeunes gens, Trimalcion, bien sûr, et sa femme Fortunata, le poète Molp, le pirate Lycas, sa femme Tryphène, voilà les personnages principaux, interprétés par des comédiens plus ou moins célèbres selon les cas. Tout cela sont les héros du Satyricon de Petron et sont les héros du film de Fellini. Les principaux événements se retrouvent, une scène au terme, une scène dans les bas quartiers de Rome. Le très 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 célèbre festin de Trimalcion qui occupe environ la moitié du roman et qui occupe entre un tiers et une petite moitié du film. Les aventures avec le pirate Lycas. L'impuissance d'Encolpe, frappé d'impuissance et qui cherche désespérément à retrouver son glaive, comme il dit. Enfin, vers la fin du roman, le testament de Molp, petite entorse de Fellini, mais elle est vénielle et elle est beaucoup plus cohérente. Molp meurt, le poète meurt à la fin et il lègue son corps à ses héritiers en leur disant « si vous voulez hériter de ma fortune, il faut manger mon corps ». Ça, c'était le testament de Molp, qui ne meurt pas. C'était le testament de Molp que vous avez à la fin du Satyricon. Je dis à la fin du Satyricon puisque tout le monde sait, je vais y revenir, que le Satyricon est un roman qui nous est parvenu en miettes. Donc, quasi-totalité du roman, quasi-totalité des dialogues, j'en ai fait le calcul, vous me croirez sur parole, entre 75% et 80% du dialogue du film, c'est du Petron. Donc là encore, une espèce de non pas de fidélité, mais de fascination pour le dialogue. Il est clair que Zapponi et Fellini ont travaillé stabilo à la main, en soulignant toutes les phrases qui leur plaisaient, quitte à les déplacer. Et je n'entre pas dans le travail de déplacement, de travestissement considérable. Un exemple le plus célèbre pour tous ceux qui ont fait un peu de latin et un peu de Petron un jour dans leur vie, la version latine la plus célèbre sur Petron, c'est le Cave Canem, lorsque nos hommes arrivent au festin de Trimalcion, ils tombent sur une mosaïque avec marqué Cave Canem, ils ont tellement peur de la mosaïque qu'ils se cassent la figure, qu'ils tombent en arrière. Et Fellini n'a pas gardé ça, il l'a déplacé dans un détail très curieux ou dans un théâtre de la cruauté qu'il a inventé, qui est le théâtre de Vernacchio. À un moment donné, un personnage est déguisé en chien, il vient se glisser derrière Encolpe et Vernacchio le pousse et lui dit « Cave Canem » en latin et Encolpe tombe. Donc une espèce comme ça de labyrinthe dans l'adaptation qui rend évidemment le travail d'adaptateur extrêmement passionnant. C'est un roman picaresque et c'est un film picaresque. Il y a Fellini est probablement un de nos derniers picaros dans la grande tradition de Rabelais, de Cervantes. Cervantes, il aurait pu un jour, sur des parties de ses innombrables projets, hein, d'adapter Don Quichotte. Et les deux grands romans latins que sont d'une part le Satyricon et d'autre part l'Andor d'Apulée, dont je vais redire un mot, ont évidemment servi de base à Fellini. Mais, et je viens de le dire, il y a d'autres sources. Et ça, c'est un des aspects très, très importants et très original et très profond, finalement, dans une vraie adaptation du Petron, beaucoup, 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 mais aussi les Métamorphoses d'Apulée, l'Andor. Deux passages principaux dans le film, l'un qui est la cité africaine, l'épisode du dieu rire, Encolpe est pris au piège dans un labyrinthe et ensuite il se rend compte qu'on lui avait fait une farce. C'est une transposition. telle quelle, une greffe, si vous voulez, des métamorphoses d'Apulée. Toute la montée en puissance de l'Orient dans la seconde moitié, tout à l'heure vous aviez une discussion à propos de la musique et on en dira un mot à propos de Fellini, toute la montée en puissance de l'Orient, de l'orientalisme ou de quelque chose qui se veut orientalisant est très fortement teinté de signes que l'on trouve chez Apulée. La magicienne Œnothéa, qui est une superbe mannequin noir aux yeux turquoises, qui va permettre de rendre à Encolpe sa puissance virile, tout simplement parce qu'un méchant magicien a caché le feu dans son sexe, donc il est obligé d'aller faire l'amour avec elle pour que il retrouve sa puissance. Petit détail qui, par parenthèse, Zapponi me l'a appris, est un recyclage d'une légende qui courait sur Virgile au Moyen-Âge. On disait que Virgile était un magicien, qu'il avait ainsi un jour puné une femme, qui, etc. Vous voyez à quel point, je vous en donne que le dessus de l'iceberg, mais à quel point le travail a été fait au scalpel, avec beaucoup de subtilité. Donc ils ont relu Apulée, ils ont relu les Métamorphoses, d'Ovide bien sûr, ils ont relu les satires de Juvénal, ils ont relu les satires d'Horace. De nombreux passages auraient pu, dans le scénario originel, auraient pu provenir de telle ou telle scène, trouvée chez Juvénal, trouvée chez Ovide, trouvée chez Horace. Ils ont également relu les historiens romains, bien sûr, et au premier plan desquels, surtout pas Tite Live, on verra pourquoi dans un instant, mais en revanche, Suétone et Tacite. Donc la vie des douze Césars, et ça va être l'occasion dans un instant de mon premier extrait, la vie des douze Césars a évidemment alimenté leurs sources. Alors, le premier extrait, je vous le présente tout de suite, c'est au milieu du film. Vous allez assister d'abord à la mise à mort violente, en quelques secondes, du pirate, parce que le pirate est au service d'un improbable empereur qui vit sur une île, une sorte de post-Tibère, si vous voulez. Et Lycas parcourt le monde sur sa galère pour lui rapporter des trésors, et notamment de la chair fraîche. Le César vient d'être assassiné. Un nouveau César va arriver, à la suite de quoi, on décapite Lycas de façon violente, Lycas interprété par Alain Cuny. Vous allez assister au cortège du nouveau César, et là, ça fleure bon, une espèce de sauvagerie qui peut venir soit de Tacite, soit de Suétone. Et puis, il y aura une petite coupure, on va sauter 5 minutes plus tard, dans un espace tout à fait étonnant, une villa à la campagne, où un patricien et sa patricienne vont s'ouvrir les veines et mourir à la stoïcienne. Et Zapponi m'a confirmé que c'était évidemment un hommage à celui qu'on croyait être à l'époque, je n'en dis pas davantage, l'auteur du Satyricon, à savoir Pétrone, qui s'est suicidé. Qui se serait suicidé en 65 à l'occasion de la conjuration de Pison. Donc un extrait très très court. Les deux étant finalement inspirés d'une certaine lecture de Tacite. Le défilé du nouveau César, ça fait tout à fait penser en particulier à l'année 69, alors c'est un anachronisme bien sûr, mais à la guerre civile qui a suivi la mort de Néron. En revoyant les images, j'ai été frappé à quel point vous êtes en 1969, repensez aux images de Rome, la série américaine que vous avez vue tout à l'heure. Je suis absolument fasciné par le fait que l'imagerie, l'orateur disait, on sent une espèce de réalisme par rapport à l'image qu'on pourrait se faire de la violence d'un Romain, d'un légionnaire, etc. Rendez-vous compte à quel point, en 1969, Fellini, finalement, et je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans les années 2000 ont connu ce film-là et l'ont revu depuis. Quant à l'hommage à Pétrone, c'est évidemment le cliché du suicide stoïcien. Il introduit, et c'est une des grandes lignes du film, il introduit un de ces effets de contraste purement fellinien dans l'œuvre de Fellini. Et caractéristique du Fellini Satyricon, contraste entre la violence, vous avez vu la tête de Lycas flottant entre deux eaux, et puis ces moments comme en apesanteur. Alors c'est vrai que vous n'avez que 2 minutes de la mort du patricien, c'est la clôture d'un passage qui dure 10 minutes avec l'affranchissement des esclaves qui partent, ensuite le départ des enfants et l'adieu du père à sa petite fille, avec un moment d'émotion très 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 intense et rare chez Fellini à ce point-là sur l'enfance. Et puis après, le couple qui reste, puisque évidemment il est clair qu'ils vont être proscrits et que les soldats du nouveau César vont débarquer dans peu de temps. Lui se donne la mort, il dit à sa femme, ne le fais pas, je sais que quand je serai mort, tu le feras, mais ne le fais pas. Et finalement, j'ai un petit peu mal calé parce qu'il y a un petit rituel avant, elle apporte du vin, il lui donne du vin à boire, il raconte comment un jour qu'il était soldat, un lion est entré dans sa tente, et puis vous avez vu les deux poignets qui sont entaillés. Finalement, il meurt, et à ce moment-là, Fellini a trouvé sous la plume d'Adrien le animula vagula blandula hospes comme Escoe Corporis, qui est un deux vers prêté à l'empereur Adrien, donc anachronisme par rapport à quand on peut situer le Satyricon. Mais évidemment, il y a là une espèce de parole funèbre sur ce décès qui touche à ce contact que Fellini a tenté d'établir avec le roman et avec la latinité. Vous me direz, tout ça, ça fait bien pot-pourri et salade mixte ou salade italienne. Ben justement, je rappelle à tout le monde que satura, c'est le sens en latin, hein, une satura, avant d'avoir le sens d'une satire au sens boileau, je dirais, du terme. Une satura, c'est bien cela, c'est un pot commun, une espèce de panier dans lequel on met un petit peu de tout, et je pense que le film de Fellini est une satura faite à partir d'innombrables traces et relectures, bien sûr, personnelles, d'une culture antique qui a pu être la sienne. Dernier mot sur l'adaptation, Fellini a voulu inscrire fortement la structure même du roman ou l'absence de structure, puisque chacun sait que le Satyricon nous est parvenu dans un état lacunaire. Les spécialistes se divisent entre ceux qui pensent que 80% du roman nous est parvenu et ceux qui pensent que c'est moins de 50%. Il n'est pas question d'entrer dans le débat ici. Quand on lit le Satyricon, il manque le début manifestement et il manque la fin, des points de suspension avant et après, et puis il y en a beaucoup tout au long du film. Eh bien, Fellini a pris le parti d'adaptateur de faire la même chose pour son film. En d'autres termes, il a construit, si j'ose dire, un film lacunaire. Donc régulièrement, on passe d'un espace à un autre, d'une action à une autre. Je vous donne deux exemples manifestes. Au relativement début du film, avant le dîner de Trimalchion, Encolpe est dans un grand immeuble que Fellini a piqué à Carcopino, parce que c'était une source de l'époque, la vie quotidienne des Romains, un immeuble qu'on appelle l'Insula Félicles, enfin que Carcopino appelait l'espèce de prototype des HLM de l'époque. À la fin de la scène, il y a une sorte de tremblement de terre où l'Insula Félicles s'effondre et on voit Encolpe s'effondrer dans les décombres. Plan suivant, on est dans une pinacothèque et Encolpe est en pleine forme, en train de visiter une pinacothèque. Que s'est-il passé entre les deux ? Après le dîner de Trimalchion, Encolpe et Eumolpe participent au dîner chez Fellini, à la différence de Petrone. Ils sont en plein champ, Eumolpe est en train peut-être d'agoniser, on n'est pas absolument sûr. Encolpe s'endort, il se réveille, il est au bord de la mer. Et les pirates de l'Icase viennent l'enchaîner. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans le film, plus c'est décousu, plus c'est déconstruit, plus ce sont des miettes. La preuve en est, vous allez la voir un exemple tout à l'heure, mais pas tout de suite, dans les tout derniers mots du film, hein, vous verrez que le dialogue est suspendu. Il y a comme une espèce d'imitation qui a été faite de ce point de vue-là. Tout cela est à relier, c'est mon deuxième point, à la représentation de l'Antiquité latine que Fellini a tenté. Le principe de base, qu'il a répété d'innombrables fois, je vais une seule fois vous lire des propos de Fellini, en français bien sûr, c'est l'étrangeté. Moi, les Romains, je ne sais pas ce que c'est, l'Antiquité latine, je ne sais pas ce que c'est, et je ne veux pas me fier à ce que je crois en savoir. Dans un texte de 1968, donc au moment où il prépare son film, il écrit la chose suivante. « Je ne sais rien des Romains. Ils me semblent des inconnus, plus éloignés de nous que ne peuvent l'être un chat ou un crabe. » Tout ce que j'ai vu au musée du Capitole ne me dit rien. Une splendide inertie qui n'a que le caractère familier des notions scolaires, le caractère hasardeux des évocations personnelles. Par exemple, à un certain point, j'ai cru reconnaître, dans un buste de marbre aux yeux vides, le petit visage souffrant d'une cousine que j'ai à la campagne. Iole, elle s'appelait. Elle avait les cheveux roux, je l'ai toujours vue au lit, malade, elle devait boire sans arrêt, la pauvrette. Un instant, j'ai eu la sensation qu'il s'était créé un très lointain contact, une complicité fugace. Ce buste avait le visage de Iole. Je l'ai caressé sur ses cheveux tressés de pierre. Qui sait si tu peux m'aider, Salonina. Sur le cou du buste, une petite plaque portait ce nom, Salonina. Mais au même instant, le très savant ami qui m'accompagnait me disait que Salonine était une spécialiste de massacres, de crucifixions, que son plus grand plaisir était d'arracher de ses mains le cœur des victimes humaines pendant les sacrifices. Non, non, ma Salonine. Voilà le genre de témoignage que Fellini a beaucoup donné à cette époque-là pour montrer à quel point ses nombreuses visites au musée du Capitole et parfois ses visites auprès de plusieurs professeurs d'université, latinistes distingués de Rome des années 60, le faisait toujours buter sur une sorte de mur. Il emploie d'ailleurs la métaphore qui est « Une nuit, j'ai rêvé que j'étais devant un mur et les Romains étaient derrière. Et ma question, c'était comment percer ce mur ?» Vous verrez par mon dernier extrait la résurgence de cette métaphore. Il y a d'abord, pour construire sa représentation de l'Antiquité, trois repoussoirs. Très simple. Le premier, vous venez de le comprendre, c'est la tradition muséale et scolaire. Ou du moins celle que il considère être années 60, hein, ne nous mettons pas en 2011. Les choses ont tout de même beaucoup bougé depuis. La tradition de l'école, alors rappelez-vous par exemple le début de Fellini Roma avec ce professeur de grec qui s'appelle Monsieur Zeus, tout un programme, qui demande à ses écoliers de se déchausser pour traverser un filet d'égout qui s'appelle le Rubicon, et ils traversent comme des, ça se passe dans les années 30, et ils traversent comme des pantins pendant que Monsieur Zeus, pieds nus avec son grand chapeau, prononce de façon docte « Alea, iacta, est » Aléa, Iacta, Est, en reproduisant dans la continuité évidemment du fascisme. Donc voilà, ça c'est un premier refus, le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a pas un pli qui manque, le refus des grands hommes historiques, le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a pas un pli qui manque, le refus des grands hommes historiques, le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a pas un pli qui manque, le refus des grands hommes historiques, le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a le refus de la dignitas latine, le refus du marbre, d'où tout un travail sur le décor, le refus des costumes où il n'y a pas un pli qui manque, le refus des grands hommes historiques. D'où le fait que lorsqu'on assassine un César, c'est un César anonyme et qui même à qui Fellini a prêté le trait d'une jeune femme. C'est une jeune femme qui interprète un César qui est là uniquement pour se faire assassiner. Un refus des hauts lieux. Par exemple, dans le scénario, Fellini avait envisagé d'ouvrir son film sur le Cirque Maxime. Hein, et il l'a retiré. Donc pas de Cirque Maxime, pas d'Aventin, pas de Capitole, évidemment pas de Colisée. Au contraire, je vais vous dire quoi dans un instant. Ça, c'est le premier refus. Le deuxième refus, c'est l'Antiquité récupérée par le fascisme. Fellini, 1920, il a 10 ans, 15 ans en plein fascisme. Vous savez à quel point le fascisme italien a utilisé et surexploité l'iconographie antique. Plusieurs détails parsèment le film, sinon on le voit très bien dans les films comme Fellini Roma ou comme Amarcord, hein, le souvenir de l'Antiquité latine dans l'enfance de Fellini, enfin fantasmé de Fellini. Il y a un détail, par exemple, au dîner de Trimalchion, je ne vous le montre pas, pendant que le dîner se déroule, les esclaves sont en train d'édifier une gigantesque fresque à la gloire de leur maître. Et la fresque, c'est un visage mussolinien. Il n'y a pas d'autre terme, c'est l'iconographie mussolinienne. Une sorte de visage de Trimalchion, comme s'il était une espèce de prêteur du temps du Duce. Et alors, là, bouchez-vous les oreilles, parce que le troisième repoussoir, évidemment, c'est le péplum. Le troisième repoussoir, ce qui ne voulait pas reproduire, ce qui était les fantasmes, et ça va être mon deuxième extrait, ce qui était les fantasmes de sa jeunesse, c'était les films qu'il voyait dans les années 20 ou dans les années 30, des péplums italiens, dont il a organisé à plusieurs reprises des caricatures, une fois dans Fellini Roma, on l'a encore revu hier soir sur le grand écran, et j'ai choisi de vous montrer la toute première version, la toute première représentation d'un péplum caricaturé, muet, caricaturé par Fellini. C'est donc dans le fameux bloc-notes d'un cinéaste On a une plongée en arrière. Fellini évoque son enfance puisqu'il est présent dans le film documentaire. Et il dit, moi, l'Antiquité, ça m'évoquait des séances de cinéma quand j'étais gosse. Alors, vous allez voir d'abord sur l'écran ce film péplum grotesque, caricaturé, inventé, bien sûr, par Fellini. Et d'autre part, vous verrez que la séquence s'achèvera au moment où on a un zoom avant sur un petit garçon en brassière marine et qui représente, bien sûr, le jeune Federico. Donc ça, c'est, si vous avez vu Roma, on est vraiment à l'origine, 3 ans avant de Roma, de cette représentation qui, évidemment, est sujette à caution. Hein. Tous les péplums du temps du muet ne sont pas forcément ainsi. Alors ensuite, après ces 3 repoussoirs, les solutions sont les suivantes. Je les signale rapidement. La première, c'est d'avoir tenté ce qu'il appelait une plongée anthropologique dans l'Antiquité latine, en représentant le quotidien. Et un quotidien qui, vu à 2 millénaires de distance, devient étrange. Je donne un exemple parmi tant d'autres, le rituel du mariage. Il y a un mariage entre Lycas et homosexuel, entre Lycas, le pirate Lycas et Encolpe, avec quelques gestes qui sont les gestes rituels du mariage romain, qui nous apparaît étrange, sauf si, bien sûr, on est de la partie. Le film montre des personnages qui mangent, qui boivent, qui font l'amour, qui défèquent, bref, qui sont pris constamment dans des activités, qui meurent, constamment pris dans des, qui sont malades, etc., etc., complètement dans des activités qui sont des activités humaines et universelles. Parmi les métaphores employées par Fellini, c'est constamment, j'avais l'impression de partir soit sur la planète Mars, soit de faire un documentaire au cœur de l'Amazonie. Le deuxième moyen, c'est le jeu avec la langue. À l'origine, il avait songé carrément à tourner le film entièrement en latin. Il ne l'a pas fait, il a conservé, vous en avez entendu un exemple ici, il a conservé constamment des bouts de phrases en latin, voire un petit peu plus. Il a mis du grec également, mais prononcé de telle façon qu'il est totalement incompréhensible. À l'époque, je me suis arraché l'oreille pendant des heures et des heures à essayer de comprendre le grec qu'on entendait, de l'italien bien évidemment, mais aussi, pourquoi pas, une phrase en anglais, une phrase en allemand, du japonais, etc., etc., etc. Nouvelle satura, nouveau pot-pourri linguistique visant à rendre compte de l'étrangeté, de la distance que peut représenter l'Antiquité latine pour lui. D'un point de vue figuratif, c'est ce qu'il appelle la contamination des styles. Très très peu d'iconographie à l'ancienne, emprunter, je ne sais pas moi, la peinture par exemple, chaque fois qu'il y a des flashs sur la peinture inspirée de sujets antiques, c'est toujours par le biais d'ironie de la part de Fellini. En revanche, cette idée de représenter la distance qui le sépare des anciens par la distance qui nous sépare de l'art moderne. Et ça, c'était une belle trouvaille. Se dire que si un tableau de Mondrian, de Klee, de Matisse, de Picasso, de Kandinsky, je cite les auteurs cités par Fellini dans ses entretiens, si ces tableaux nous surprennent, que si la musique de Varèse, si la musique pop surprend le spectateur de 1968-69, eh bien en injectant des motifs décoratifs d'une part, musicaux de l'autre, dans la représentation de l'Antiquité latine, on touchera cette étrangeté fondamentale qu'il veut toucher. Et c'est ainsi que, avec Danilo Donati, le décorateur, avec Nino Rota, le musicien, il y a un énorme travail d'imitation, de récupération de formes du XXe siècle. Du point de vue de la musique, il a fait aussi une espèce de tour du monde. Le générique est impressionnant, il y a une 20aine de crédits musicaux. Il est allé, par exemple, assister à une représentation de théâtre philippin, d'une part pour s'inspirer de cela en relisant par ailleurs le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud pour figurer le théâtre de Vernacchio qui est au début du film, et d'autre part pour emprunter des sonorités qui sont toujours des sonorités étranges. Vous allez un tout petit peu entendre dans le dernier extrait que je vais vous montrer. Et le dernier aspect qui est très étonnant, c'est d'avoir inscrit la ruine à l'image même, sur l'image même. C'est-à-dire que à intervalles réguliers tout au long du film, du début à la fin, par exemple, on voit une tête de colosse pendant quelques secondes qui est à moitié rongée par le temps, qui est transportée par des chevaux. Dans la Pinacothèque, les œuvres sont abîmées, comme on pourrait les voir aujourd'hui au musée de Naples. Il y a même une statue avec des bandages, comme une espèce d'énorme sparadrap.
Donc on a la cohabitation d'une antiquité vivante, en pleine vie, et une antiquité telle qu'on peut la voir au XXe siècle. Et la cohabitation des deux crée cet effet. On va préparer, si vous voulez bien, le troisième et avant-dernier extrait, qui est la toute fin. Qui est la toute fin du Fellini Satyricon. Vous allez voir, pendant que l'extrait se prépare, vous allez voir d'une part, après la mort de Molpe, Encolpe part avec une série d'hommes qui partent en voyage, et vous allez voir que Fellini a inventé une dernière réplique qui est suspendue par des points de suspension, qui imite d'une certaine façon, qui ne sort pas du roman, mais qui imite la toute fin du roman. Et puis après, il y a un très beau plan sur Encolpe, je vous laisse découvrir cela, et ça résume exactement ce que je suis en train de vous dire sur le sourire lointain de ces Romains et sur la fresque. C'est ainsi que j'avais intitulé jadis mon travail, Le sourire et la fresque. Je ne sais pas si Fellini a lu la vie d'Henri Brûlard de Stendhal, mais quand Stendhal évoque la façon dont ses propres souvenirs remontent à la surface, il utilise exactement la métaphore que vous venez de voir. Mais souvenir, c'est comme une fresque sur un mur dont il y aurait des pans encore visibles, encore peints, et puis, je cite de mémoire, on apercevrait dessous la brique et la trouée des murailles. Alors vous voyez que j'en arrive évidemment un peu à une sorte d'ample conclusion de ma communication, d'autant plus que ce que je viens de vous montrer consonne avec le journal Le Monde d'hier soir. Vous voyez, c'est l'actualité félinienne. J'ai lu hier soir dans Le Monde que Cinecittà n'allait pas bien du tout et qu'un photographe américain est allé prendre des photos à Cinecittà pour montrer à quel point Cinecittà, où fut évidemment tourné non seulement Ben Hur, mais le Satyricon et tous les films de Fellini sur le plateau Cinque. Voilà, je vous lis un bref paragraphe qui, je trouve, va relativement bien avec le discours tenu par Fellini dans le Satyricon et de manière générale dans son œuvre. Avec cette nouvelle équipe, alors c'est une nouvelle équipe qui se targue de ne rien connaître ni au cinéma ni à la décoration, etc. Ils en sont fiers en plus, manifestement. Avec cette nouvelle équipe, Cinecittà s'est diversifié, devenant une marque symbole du savoir-faire dans le domaine du divertissement. La moitié des 20 studios sont occupés par des plateaux de télévision, et on connaît la télévision berlusconienne. On tourne des publicités sur le décor de Rome, de la Rome antique, lui-même situé à une centaine de mètres de la maison des Fanuloni, c'est-à-dire le Love Story italien. Heureusement, Fellini n'est plus là pour voir ça. Je veux dire que il y a deux strates. Il y a l'Antiquité vue par Fellini en 1969 et Cinecittà vue par les marchands de divertissement aujourd'hui. C'était vraiment absolument pas prévu, hein, ce petit flash, mais je trouve que ça consonne bien avec le film. Donc ma grande conclusion, la voilà. C'est de replacer le Satyricon dans cette trilogie, d'une part le bloc-notes, d'autre part le Fellini Satyricon et enfin le Fellini Roma dont on est en train de préparer le dernier extrait. Ce qui s'est produit, c'est le paradoxe et la contradiction. À partir d'un voyage dans le passé, allons jusqu'au bout, hein, à la recherche d'un temps perdu, si lointain, Fellini s'est retrouvé lui-même. C'est le moment où, dans la guerre de Fellini, et ça je l'ai découvert après coup, c'est pour ça que là, j'apporte par rapport à ce que j'avais travaillé en 81, 82, 83. C'est le moment où l'œuvre de Fellini va devenir encore plus autobiographique qu'auparavant. Il est significatif que le bloc-notes d'un cinéaste soit, coïncidence, le film charnière jusque dans l'arithmétique de l'œuvre de Fellini. Il a tourné 11 films avant bloc-notes, 11 films après bloc-notes. Donc 11 et 11, 22 plus 1, 23. Dans Bloc-notes, c'est la première fois qu'il se montre à l'écran, qu'il passe devant sa caméra. Vous ne l'avez pas vu là, il devient un personnage des films de Fellini. Ce sera le cas ensuite dans Les Clowns, 1970, dans Fellini Roma, 1971, dans Intervista, 1987. Fellini devient à partir de ce moment-là une espèce d'autophage qui se nourrit de tous les formes de son inspiration, et parmi les formes de son inspiration, il y a le retour vers le passé. Quand il fait le Satyricon, il a 48 ans. Il sort d'une crise personnelle, dépression nerveuse, très longue, professionnelle. Il n'a rien tourné de très très important depuis Juliette des Esprits, qui a été un échec, dont son dernier grand succès, c'est 8,5, c'est environ 5-6 ans plus tôt. Il a tenté un film qui s'appelle Le Voyage de Mastorna, qui échoue, et il se retrouve face à un mur, et il se projette dans le sujet le plus lointain possible, l'Antiquité latine et le roman de Pétrone, en affichant les marques de l'étrangeté, du mystère, et en se projetant dans le passé, il enclenche quelque chose qu'on rencontre souvent chez les grands artistes de la maturité, dans la seconde période, qui est le retour vers soi, le retour vers le passé. Il est significatif que Bloch-Notes, Le Satyricon, Les Clowns, Fellini Roma, Amarcord, Casanova, Elena Veva, Intervista, je cite de mémoire, tous ces films-là entretiennent une relation avec le passé. Soit le passé proche, 20e siècle, soit le passé lointain, Casanova, 18e siècle, soit le passé très lointain, l'Antiquité. Donc il y a quelque chose qui s'est enclenché à partir de ce moment-là. D'une part, le retour vers le passé, d'autre part, le retour vers soi, à Marcord, par exemple. Comme si l'Antiquité, si lointaine, était devenue un miroir pour lui. Or, au cœur du miroir, il y a évidemment la ville-mère, Rome. Et c'est peut-être ce qui pourrait rapprocher Renoir de Fellini. Renoir s'est toujours identifié à la France, pour son bonheur ou pour son malheur. Il est clair que Fellini s'est toujours identifié à l'Italie et en particulier à Rome. Identifié tout en montrant les innombrables aspérités. Eh bien, je crois que, un peu par le hasard, mais ce sont les hasards de la création artistique, je crois qu'en allant fouiller du côté de Pétrone et des anciens, il a fouillé à l'intérieur de lui-même, il a fouillé à l'intérieur aussi de ce qui, sans grands mots excessifs, fait le lien de l'humanité entre les anciens et aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis professeur de latin aussi. Et assez fréquemment, en fin d'année de latin en Hippocagne, je leur montre la séquence que vous allez voir, que je ne commenterai pas après, parce que traditionnellement, j'ai beaucoup de mal à reparler après cette séquence. Certains l'ont probablement déjà tous en tête, d'autres l'ont vu hier. C'est au milieu de Fellini Roma. Dans Bloc-notes d'un cinéaste, il y a une séquence dans le métro où Fellini emmène un archéologue et puis il bavarde de son projet. Et au fur et à mesure où le métro avance, le métro se peuple, les stations de métro se peuplent de personnages costumés à l'ancienne. Une séquence assez cocasse. Quelques années plus tard, c'est la très célèbre séquence du métro de Fellini-Roma, je ne vous en passe que la fin. Une équipe de télévision vient enquêter sur le percement du métro sous Rome, et puis ils sont manifestement tombés sur une poche de vide. L'ingénieur demande qu'on perce le mur pour voir ce qu'il y a derrière, et voilà ce qu'ils vont trouver derrière.
Bien que l'heure soit déjà avancée, je pense que nous pouvons prendre quelques minutes pour échanges et questions, notamment concernant les deux dernières communications, celle d'Adeline Grand-Clément, Sandra Perrenoguès et celle d'Olivier Curchaud.
Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport en particulier à la musique, en fait. Enfin, ça concerne peut-être aussi la première intervention. La première et la deuxième, parce que j'ai pu remarquer en écoutant un peu de musique, de films sur les péplums, qu'il semble y avoir deux périodes différentes sur les styles de musique. La première avec en particulier Ben Hur et Miklos Rozsa qui a fait dessus un style assez avec beaucoup de trompettes, buccins et tout ça. Avec aussi Spartacus et mis en musique par Alex North. Je trouvais que c'est pas du tout le même style que la musique qu'on retrouve à partir de Gladiator, où on retrouve beaucoup de Duduk, qu'on retrouve que c'est la musique qu'on entend aussi dans Rome, c'est du Duduk, et que je crois qu'on retrouve aussi dans Agora. Donc est-ce qu'on peut dire que peut-être que la musique du film, les musiques du film retracent aussi peut-être un petit peu cette perception qu'on peut avoir de l'Antiquité?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur.
Oui, moi aussi, en fait, j'irais même plus loin. Donc, ça c'est révélateur d'une esthétique, enfin, d'une manière de se représenter effectivement les mondes anciens qui est complètement différente et qu'on voit très bien sur les affiches, quand il y avait les deux affiches, celle de Cléopâtre et celle d'Agora. On a parlé un petit peu hier. Au niveau de la colorisation, on a des dominantes rouge et or pour les péplums hollywoodiens, tradition jusqu'à Gladiator. Et le renouvellement a fait que non seulement on passe à un autre type de musique, avec des accents et des sonorités qui parfois nous amènent, nous tirent du côté de l'Orient, et aussi des colorations qui sont beaucoup plus froides. Des teintes beaucoup plus froides dans les sombres, les gris, etc., qui provoquent pareil une sorte de décalage par rapport à l'image qu'on avait traditionnellement. Et je crois que la musique notamment contribue à créer un effet d'étrangeté, cette approche anthropologique de Fellini, cette idée de mise à distance volontaire, hein, pour éviter aussi de retomber dans tous les stéréotypes du peplum traditionnel.
C'est ce qu'on disait hier, hein, science-fiction. Je crois que je ne sais plus lequel des premiers intervenants a dit la science-fiction, le peplum, la science-fiction, le peplum. Voilà, l'étrangeté qu'on a dans la représentation de la science-fiction depuis des années, des années, des années. Et Dieu sait si elle change de décennie en décennie. Je crois qu'il y a comme ça un phénomène de transfert.
Une autre question ? Oui, monsieur ?
Oui, je voulais... revenir sur le rapport de Fellini avec le péplum en tant que genre, que, donc, oui, évidemment, parce que c'est très intéressant, parce que ça m'a toujours paru un peu assez paradoxal, et en fait plus complexe qu'il n'y paraît. Bien sûr, par rapport au film muet qu'il voyait comme en étant enfant, avec le Bloc d'un cinéaste, c'est évident, mais ce qui m'a toujours frappé dans le Fellini Satyricon, donc 69, il y a eu des péplums en Italie, en Syrie jusqu'en 65, donc c'est vraiment très très proche. Et surtout dans les séquences qu'il a rajoutées, c'est-à-dire qui ne sont pas extraites directement du roman, c'est de voir non seulement à quel point toutes les séquences obligées des péplums traditionnels y figurent quand même métamorphosées, et en plus avec cette référence explicite au genre des années 60, avec même l'emploi d'un acteur aussi emblématique que Gordon Mitchell dans un second rôle, qui n'était pas obligé de prendre évidemment, et qui appartient en propre au cinéma de genre des années 60.
C'est parfaitement exact, je l'avais dit un petit peu Laurent, je l'ai suggéré à peine lorsque j'ai dit qu'il avait inscrit, par exemple, j'ai retrouvé une naissance de Vénus de Botticelli à l'arrière-plan d'une scène de bordel. Voilà. Eh bien, l'iconographie au sens large. Donc, tu vois, je vais carrément de Botticelli jusqu'au péplum des années 60. Il y a tout un système de mise en ironie. Alors, dans ce que tu dis à l'instant, il y a en particulier tout ce qui est les topoïs. L'assassinat du César, c'est un topos qu'on a dans le Fellini Satyricon. C'est un topos. La nymphomanie, la lascivité, l'érotisme, c'est un topos. Et qu'il intègre. C'est ça que je trouve très très fort. C'est-à-dire qu'il intègre l'objet de la critique en prime. Hein, c'est pas que ça. Mais il intègre en plus l'objet de la critique. Donc il récupère tout ce qui existe sur l'iconographie, la forme de représentation, du moins celle qu'il en a. Oui, oui, donc mille fois d'accord. Alors quand tu dis, évidemment, bien sûr, le personnage qui est le... c'est celui qui enlève l'hermaphrodite, hein, c'est ça. Mais même Lucia Bose, que vous venez d'apercevoir, je ne connais pas la filmographie, ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas tourné 3 ou 4 péplums, etc., etc.
Une dernière question peut-être, parce que le temps passe, Philippe Faureau, je crois deviner, oui.
Oui, merci. C'est toi. Est-ce que vous pourriez nous faire, c'est peut-être un peu énorme comme question, mais le point sur l'auteur du Satyricon, ce ne serait plus Pétrone, pardon. Est-ce que...
Il y a deux choses. Alors, je vais vous répondre d'une façon sérieuse et d'une façon gag. La façon sérieuse, c'est qu'en 68-69, il n'y a pas la moindre hésitation. Pétrone, c'est Pétrone. C'est le Pétrone de Tacite, c'est le Pétrone qui s'est ouvert les veines à l'occasion de la conjuration de Pison et qui a envoyé, qui pendant la nuit a écrit le Satyricon, si on comprend bien ce qu'écrit Tacite, qu'il aurait envoyé pour faire la nique à Néron. Bon, ce qui est peu probable. Depuis, comme vous savez vraisemblablement, depuis une quinzaine d'années, là je parle sous l'autorité de mes éminents confrères universitaires, je ne suis pas universitaire, depuis on a mis en doute l'identité de Pétrone, de ce Pétrone-là, en disant le Pétrone, l'arbitre des élégances, etc., Tacite, c'est pas lui, et si mes choix sont exacts, dit que c'est un ancien affranchi du temps de Pline, donc on décale Pétrone des années 60 aux années environ 120, quelque chose comme ça. Je reste à être sérieux, je continue à être sérieux dans ma réponse. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Du point de vue du spécialiste de Pétrone et du Satyricon de Pétrone, oui, je n'aurais pas l'outrecuidance pour dire que la société de 120 ou 125 est rigoureusement la même que la société de 67 ou de 62 avant Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une métamorphose, mais je ne suis pas spécialiste. Et maintenant, la réponse gag, c'est que j'ai assisté l'année dernière, mais je ne citerai aucun nom, à une conférence d'un une personnalité extrêmement éminente du monde culturel et intellectuel du tout Paris, qui consacrait à l'occasion de l'exposition Fellini, qui s'est déroulée au Jeu de Paume, une conférence qui portait sur le Fellini Satyricon, donc vous doutez bien que j'y suis allé, et il a passé un quart d'heure à paraphraser Tacite en disant, or c'était une dizaine d'années après que les travaux sur l'identité de Pétrone a été révélés, cette très très éminente personnalité a continué à prendre Pétrone pour Pétrone. Donc moi je vais continuer à prendre Pétrone pour Pétrone, je ne suis pas directeur de la Bibliothèque nationale de France.